France Culture. Le journal. Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Donald Trump fait pression sur le Hamas pour qu'il accepte l'ensemble de son plan pour Gaza. Il a envoyé deux émissaires au Caire pour participer dès aujourd'hui aux négociations indirectes entre Israéliens et le mouvement palestinien. Premières élections législatives de l'ère post-Assad aujourd'hui en Syrie. Un scrutin attendu avec impatience par les électeurs, mais aussi critiqué pour son manque de démocratie. Et puis le secteur automobile européen en difficulté en raison d'un virage vers l'électrique plus difficile que prévu en France. Stellantis va mettre plusieurs usines à l'arrêt en ce mois d'octobre. L'Égypte, l'un des pays médiateurs qui tente d'obtenir la fin de la guerre dans la bande de Gaza, est une nouvelle fois au cœur des pourparlers. Des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus aujourd'hui au Caire pour des discussions indirectes sur le plan de paix de Donald Trump et sur la libération des otages israéliens, première étape du plan américain. Hier soir, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit espérer ramener tous les otages dans les prochains jours. L'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sont également attendus au Caire pour maintenir la pression sur le Hamas. Le président américain l'a prévenu hier qu'il ne tolérerait aucun retard dans l'application de son plan. Les précisions de l'envoyé spécial de France Culture aux États-Unis, Isabelle Labéry.
Après avoir arraché à Benjamin Netanyahou un accord de principe fin septembre, le président américain concentre ses efforts sur le Hamas. Ultimatum, menace, injonction. Fidèle à sa rhétorique, il a multiplié hier les messages sur son réseau social pour convaincre le mouvement islamiste d'adhérer à l'ensemble de son plan. Car pour l'instant, le Hamas refuse d'être exclu des discussions sur l'avenir de Gaza. Il ne s'est pas non plus exprimé sur son désarmement. Deux points qui figurent pourtant noir sur blanc dans le texte présenté par la Maison-Blanche. Ce « oui mais » ne satisfait pas Donald Trump. Il l'a dit vendredi, si rien ne bouge d'ici ce soir, il promet l'enfer à l'organisation palestinienne, comprendre un soutien américain total à une nouvelle offensive israélienne. Pour transformer ce rapport de force en solution diplomatique, le président américain dépêche aux négociations du Caire ses deux émissaires de haut rang. Il veut aller vite, son statut de faiseur de paix au Proche-Orient en dépend.
Côté palestinien, la décision du Hamas de libérer les otages israéliens tout en demandant à rediscuter certains points du plan Trump semble plutôt bien accueillie par la population. Mais dans cette région où les coups de théâtre sont légion, les Palestiniens restent très prudents. Illustration avec ce reportage à Ramallah en Cisjordanie d'Amira Swilem.
Il tire sur un narguilé tout en observant le paysage qui se déploie sous ses yeux.
En face, c'est Jaffa et à 80 km de là, plus au sud, c'est Gaza.
En ce jour de week-end, Mahan et ses amis se sont réfugiés en haut des montagnes de la banlieue de Ramallah. Eux qui tentent d'oublier l'actualité n'y arrivent pas vraiment.
D'un côté, je suis content parce que je me dis que les bombardements vont peut-être cesser et qu'on n'aura plus à se réveiller tous les matins en apprenant que 100 Palestiniens de plus ont été assassinés. Et en même temps, je ne crois pas qu'un accord émanant des États-Unis puisse se faire dans l'intérêt des Palestiniens.
Autour de la table, Tamem, 30 ans. Ses grands yeux bleus s'assombrissent quand elle évoque Gaza. Comme beaucoup de Palestiniens, elle a du mal à imaginer que la fin puisse être vraiment proche.
Pour être honnête, je suis un peu sceptique sur les velléités d'Israël. Je me demande si pour la quatrième fois, ce n'est pas une façon de gagner du temps et de continuer le génocide. Israël ne respectera aucun des points de cet accord. Je le sais pertinemment. C'est juste une façon de faire en sorte que la colère des peuples retombe un peu.
En Cisjordanie occupée, comme à Gaza, tant que les mesures ne se concrétiseront pas sur le terrain, c'est l'incrédulité qui risque de prévaloir.
Amira Swilem à Ramallah et dans cette partie du monde très instable, la Syrie organise aujourd'hui des élections législatives. Une première après plus de 14 années de guerre et un demi-siècle de dictature. Objectif, élire 210 parlementaires, un tiers nommés par le président par intérim, Ahmed El-Sharré. Le reste par des collèges électoraux régionaux désignés par l'État. Pour les Syriens, c'est un scrutin indirect, inédit, qui soulève de nombreuses questions. Reportage à Damas de Manon Chaplin.
À quelques encablures de l'Assemblée, Yazan, étudiant de 30 ans, se balade sans quitter des yeux le bâtiment. Ici siégeront bientôt de nouveaux parlementaires.
Je suis si excité. J'espère que l'on pourra enfin avoir des représentants qui nous ressemblent. Surtout nous, les jeunes, qui rêvons d'une nouvelle Syrie. qui rêvons de démocratie.
Yazan, depuis toujours intéressé par la politique, a longtemps pensé qu'il pourrait lui-même voter. Il y a quelques jours, il a finalement compris que les élus seront nommés par des comités.
Ce n'est pas vraiment démocratique.
À quelques pas de là, dans le café Raouda, connu pour être l'un des poumons de la vie politique syrienne, même interrogation, même scène.
Je sais qu'il y a des élections, mais sincèrement, je ne sais pas grand-chose de plus. Quoi qu'il arrive, ce salaud d'Al-Assad est parti. Je pense que nous devons donner une chance à ce gouvernement. Nous ne pouvons pas juger sans avoir essayé.
Après un demi-siècle de dictature, après des décennies de vie politique en berne, le processus électoral est inédit en Syrie, peut-être trop complexe. Lara Aizou Zouki, membre du haut comité électoral.
Beaucoup de gens nous parlent du manque d'informations, mais nous sommes toujours présents sur Internet, dans les médias. Nous nous sommes énormément exprimés sur ces élections et nous continuons à le faire. Après toutes ces années, nous savons qu'en Syrie, certaines personnes peuvent simplement être mal informées ou désintéressées par les affaires politiques.
Certains observateurs craignent un manque de représentativité. Le pouvoir central a décidé de reporter les élections à Souida et dans le nord-est à dominante kurde, deux zones sur lesquelles il n'a toujours pas repris le contrôle.
Manon Chaplin à Damas. Retour gagnant en République tchèque pour Andrej Babiš, l'ancien Premier ministre battu de peu il y a 4 ans. Le candidat populiste autoproclamé trumpiste a remporté hier les élections législatives avec 34,6% des voix, sans mouvement. À nos devances, la coalition du gouvernement sortant, un peu plus de 23% des suffrages. Faute de majorité absolue, il aura besoin de partenaires pour gouverner. Il a fait sa campagne sur la promesse d'augmenter les prestations sociales et de réduire l'aide apportée à l'Ukraine. L'Ukraine, où au moins une personne a été tuée et 9 autres blessés ce matin à Zaporijjia, dans le sud-est, après une frappe russe. Moscou multiplie les attaques alors que les températures sont en baisse, visant notamment les installations énergétiques ukrainiennes. Les forces armées de la Pologne ont quant à elles annoncé ce matin le déploiement d'avions et la mise en état d'alerte de défense au sol pour protéger son espace aérien. Donald Trump signe un décret pour l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago pour, selon sa porte-parole, protéger les agents et les biens fédéraux. Une mesure qui soulève une vive opposition des élus et responsables de cette mégalopole démocrate. Dans le même temps, une juge fédérale a bloqué la tentative du président républicain de déployer la garde nationale à Portland, autre ville démocrate, où des manifestations contre la police de l'immigration ont lieu depuis des mois. France Culture, 9h07, Stellantis ébranlé par les difficultés du secteur automobile en Europe. Le constructeur franco-italo-américain, confronté à une baisse de près de 9,5% de ses ventes depuis le début de l'année, va arrêter la production dans plusieurs usines dans les jours qui viennent, à Sochaux, à Mulhouse, mais aussi à Poissy. Les salariés de cette usine historique, dernière à produire des voitures en Île-de-France, seront à l'arrêt pendant près de 3 semaines, nous hommage.
Ce sont 2000 salariés de l'usine Stellantis de Poissy qui vont se retrouver au chômage partiel du 13 au 31 octobre. Pour certains salariés, comme pour le syndicat Sud, cette décision présage la fin totale du site. Mais tous ne sont pas aussi pessimistes.
Le dialogue social qui est initié au niveau de Stellantis nous permet d'être plutôt confiants dans l'avenir.
Brahim Eit Atman est le secrétaire adjoint du syndicat FO de l'usine Stellantis à Poissy. Pour lui, le vrai problème, c'est que la filière automobile tout entière traverse une crise en Europe et c'est notamment à cause, toujours selon lui, de l'interdiction des véhicules thermiques au sein de l'Union européenne prévue d'ici 2035. Mesure pas tout à fait ancrée en France puisqu'en janvier dernier, les députés ont voté contre. Une incertitude qui refroidit les automobilistes.
Comme le client ne sait pas vers quoi s'orienter, est-ce qu'il doit s'orienter vers l'électrique, vers le thermique ? Il n'achète plus de voiture en attendant de voir quelle est la décision politique qui sera prise. La voiture est beaucoup trop chère aujourd'hui. Le client n'a pas les moyens de se payer l'électrique alors que le politique pousse vers l'électrique. C'est ça qui pose problème à cette filière aujourd'hui.
Ce difficile virage vers l'électrique ne touche pas que Stellantis. Il y a 2 jours, Renault a même évoqué la possible suppression de 3000 emplois dans le monde entier. Et au niveau européen, le constructeur allemand Volkswagen accuse aussi le coup et va, comme Stellantis, suspendre sa production sur 2 sites pendant une semaine en octobre.
Et nous reviendrons sur cette crise du secteur automobile dans notre journal de midi et demi avec notre invité Bernard Julien, maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux. Le gouvernement de Sébastien Lecornu toujours attendu. Le Premier ministre se heurte encore aux réticences des Républicains qui ont reporté à aujourd'hui la réunion prévue hier soir pour décider de leur participation ou pas au futur exécutif. Sébastien Lecornu qui a transmis une feuille de route gouvernementale au bloc central qu'il appelle à s'unir. Le temps, aujourd'hui hésitant entre nuages et éclaircies sur la majeure partie du pays, encore du vent, surtout dans le sud-est et de la pluie sur les Vosges et le Jura. Les températures maximales 13 à 17 degrés au nord et à l'est, 17 à 20 au nord-ouest et au sud, 21 à 26 près de la Méditerranée.